Eh bien, on est très content de vous retrouver, de retrouver Aïcha dans la cabine technique, de retrouver les auditeurs et le studio de Radio Galère après une petite interruption liée à l'arrivée d'un espèce de virus bien connu dans le monde entier et dont la réputation est un peu surfaite, mais enfin, quand même, elle est justifiée. On est à 600 millions de cas. Hein, c'est les chiffres de l'OMS, ce qui est pas mal, hein, 600 millions de cas, beaucoup moins de décès, heureusement, hein, c'est pas la peste, mais ça devient une belle, belle épidémie qui se poursuit sous des formes un peu mineures, tant mieux, mais qui se poursuit encore ici et là. Bien, n'en parlons plus, on est content effectivement de se retrouver. Alors, une nouvelle qui fait plaisir, et puis je ne m'étendrai pas parce que la chronique va durer très longtemps, mais le secrétaire général de l'Élysée, donc il s'appelle M. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, il faut savoir que c'est le poste central. C'est celui qui sait tout, c'est celui qui orchestre tout, c'est celui qui pilote, j'ose le dire, parce que ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est un sot, mais ça veut dire qu'il y a un stratège froid qui ne se montre pas, qui ne se mouille pas, qui ne prend pas de risque de tenir des propos inconsidérés et de faire des effets de manche sur les ondes. Non, c'est ce monsieur qui s'appelle Alexis Kohler. Et il a ceci de très particulier, qu'il a la même formation initiale que M. Emmanuel Macron, à savoir inspecteur des finances, et qu'il a tenu un rôle tout à fait éminent dans la campagne présidentielle de 2017, qui a permis à M. Macron d'arriver à l'Élysée, puisqu'il a réussi, alors qu'il était haut fonctionnaire, à se faire détacher dans une entreprise suisse, avec laquelle il a des liens familiaux extrêmement étroits, à en devenir, non pas un cadre quelconque, le directeur financier de la deuxième plus grande compagnie mondiale de transport maritime. C'est pas tout à fait rien du tout. Hein. Une société donc d'origine italienne, dont le siège est à Genève, et avec laquelle il a des liens de parenté. Je crois que sa maman est une cousine de la fondatrice de la société en question, qui s'appelle Mediterranean Shipping Company, MSC en abrégé, si vous connaissez. C'est le deuxième armement mondial pour le transport des conteneurs et c'est aussi le deuxième armement mondial pour les croisières. Donc ils ont deux cordes à leur arc et donc énormément d'argent. Leurs comptes ne sont pas publiés, les actions sont dans la famille. Donc c'est une espèce de nébuleuse étonnante, mal connue, dans laquelle ce monsieur, comme ça, sur sa bonne mine, devient directeur financier. C'est presque un conte de fées, c'est trop beau. Et pendant qu'il était directeur financier de MSC Genève, il était en même temps un des responsables de la campagne présidentielle de M. Macron. Hein ? C'est-à-dire qu'en fait, il est évident que tout le financement de la campagne de M. Macron, parce qu'il y a la partie officielle, hein, la loi sur le financement des partis politiques, et puis il y a tout le reste, effectivement, c'est passé entre ses mains. Il sait tout. Voilà. Et donc, sans lui, en fait, Macron, j'allais dire, est tout nu. Il est complètement à découvert. Hein, et donc, le monsieur de la finance, après avoir été raté par le parquet national financier une première fois, puisqu'il y avait eu un non-lieu, vient d'être repris par le parquet national financier. Donc, on en reparlera, mais c'est intéressant de comprendre comment fonctionne notre République avec la partie la plus sombre, la plus mal connue de ses coulisses. Et là, on est exactement à l'endroit clé où la plupart des choses importantes se nouent dans le silence, parce que ce monsieur ne parle jamais, on ne le voit jamais sur les écrans. Hein. Et en fait, c'est lui qui tient le calendrier, c'est lui qui tient les ordres du jour, c'est lui qui tient l'agenda du président. Voilà. C'est tout à fait décisif comme personnage. Bien. Puisque je parle de petit monde politique, mais j'en redis un petit mot parce qu'il y a eu des nouvelles. Vous savez que M. Bolloré, qui soi-disant avait abandonné les transports maritimes et les ports, finalement s'est ravisé. C'est ravisé puisqu'il il vient d'investir et ça y est, c'est ouvert. Il a un port à lui dans le petit pays qui s'appelle Timor-Leste. Alors ça ne vous dit rien du tout. Hein. Timor-Leste, c'est un petit bout de l'île de Timor, qui est l'île la plus orientale de l'archipel indonésien, qui est une ancienne colonie portugaise et qui a réussi à échapper à l'emprise du gouvernement indonésien et qui est un petit pays indépendant, tout petit, d'un million et demi d'habitants, assez proche de l'Australie, qui est son plus proche voisin. Et M. monsieur de Bolloré donc vient d'installer un petit port là. Il est donc la façon dont ce petit pays, catholique à 98%, à la différence du reste de l'Indonésie, puis ça c'est le reste de la colonisation portugaise, est un espèce de bastion, oui, du catholicisme, de l'Occident, en plein milieu de ces mers du Pacifique. Voilà. C'est là qu'est M. Bolloré, donc il n'a pas tout abandonné, mais il reste une espèce de croisé, j'allais dire, hein, un croisé du catholicisme occidental qui s'est installé sur cette petite base, toute petite, mais qui arrive à survivre. On en parlera. Alors on en parlera parce que la prochaine émission mensuelle de Comaguerre, donc le dossier mensuel, sera consacrée précisément à l'Indonésie. Pourquoi le faire ? Parce que c'est le moment, parce que l'actualité nous y pousse en ce sens que l'Indonésie, qui est aujourd'hui le quatrième pays le plus peuplé du monde, c'est bon à savoir, après donc les deux gros, hein, Inde et Chine, et puis le troisième qui est beaucoup plus petit mais qui est quand même gros, c'est les États-Unis, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde. 280 millions d'habitants à peu près, étendus alors sur un archipel gigantesque, mais qui pèse son poids, et qui pèse d'autant plus son poids que cet archipel est très riche de tas de choses, de charbon, de pétrole, de gaz, de différents minerais, d'étain, enfin j'en passe et des meilleurs, de bois bien entendu, de toute une série de produits agricoles aussi. Et donc l'Indonésie est en train de monter en puissance, elle joue un rôle central dans l'association des pays de l'Asie du Sud-Est, la SEAN, et elle accueille au mois de novembre, c'est pour ça que c'est l'actualité, elle accueille au mois de novembre le sommet du G20. Sur ces terres, hein, puisqu'elle fait partie effectivement du G20, des 20 premières économies mondiales. Donc on en parlera aussi largement que possible pour nous la faire découvrir, parce que dans la mesure où l'Indonésie n'a pas été une colonie française, que les Français s'y sont pas beaucoup intéressés, les Anglais s'y sont intéressés, ça a été une colonie néerlandaise, on le sait, mais la France a eu très peu à faire, elle a peu de liens avec ce pays-là, donc on en parle fort peu. Je crois qu'il y a un enseignement d'Indonésie à Langzhou, à Paris, mais c'est très très léger. Le nombre, les connaisseurs de l'Indonésien et de l'Indonésie sont très peu nombreux en France. Donc c'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur ce pays qui prend du poids. Il n'est pas aligné, il n'est ni pro-chinois, ni pro-États-Unis, il essaye de trouver sa place avec les capacités qu'il a dans ce monde un peu compliqué de l'océan Pacifique et de cette zone-là du monde, et il commence à y arriver. Donc un coup de projecteur sur le personnage et sur le pays en question. Je parlerai évidemment pas beaucoup de Vincent Bolloré, qui est un petit détail, une petite anecdote franco-française qui n'a pas beaucoup d'autres intérêts. Ensuite, puisque j'ai parlé des colonisateurs, un mot sur Madame Truss, donc le Premier ministre anglais, qui s'est embarqué dans une politique invraisemblable, mais au point de laisser les observateurs les bras ballants, en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ? À quoi ça rime ?» Enfin, y a personne qui dit « elle a raison de faire ça ». Tout le monde se dit « mais qu'est-ce qui lui a pris de mener cette politique ?» Alors, je vais la résumer, mais c'est assez simple de le faire. Elle annonce une politique qui est une politique, j'allais dire, tout à fait thatchérienne, en disant « je vais diminuer les impôts des riches, il y a trop d'impôts qui sont donc prélevés par le gouvernement britannique ». Alors, bon, pourquoi pas, mais c'était déjà pas mal avancé, ça, elle continue. Bon, première annonce. Alors, ça peut se justifier, mais en même temps, elle dit « Ah, mais j'ai quand même des projets, je vais emprunter beaucoup d'argent parce que je veux faire toute une série de choses, y compris augmenter les budgets militaires, mais pas que ça ». Et en fait, elle se retrouve devant une contradiction intenable, c'est-à-dire que quand vous diminuez vos recettes fiscales, et que vous annoncez que vous allez beaucoup dépenser, et que pour beaucoup dépenser, vous empruntez, puisque vous n'avez pas l'argent pour les dépenses que vous venez d'annoncer, vous êtes face à une espèce de doute du banquier que vous avez en face de vous. Le banquier dit, voilà, bon, alors ses recettes diminuent, elle n'a pas d'argent dans la caisse, elle m'emprunte beaucoup d'argent, elle a peut-être des projets intéressants, mais ça ne me regarde pas en tant que banquier. Quand et comment elle va me rembourser ? Parce que c'est ça la question du banquier. Le banquier se dit, mais elle n'est pas très, très sérieuse, parce qu'elle se supprime des recettes fiscales, elle lance un grand programme de dépenses, et elle vient me voir en disant, aidez-moi pour payer les dépenses, mais je n'ai pas de recettes. Hein ? Alors le banquier s'affole. Il dit, mais je ne serai peut-être jamais remboursé. Alors il faut savoir qu'un banquier privé en général, qui se retrouve face à un État Il se dit, un État, bon, c'est le meilleur des créditeurs, des bénéficiaires possibles. C'est-à-dire, un État finit toujours par prendre dans les poches de la population. Il a même des lois pour ça. Il peut, à la limite, emprisonner des gens, faire des exemples, etc. Donc, on dit toujours que l'État, c'est le dernier, c'est le meilleur emprunteur possible, in fine. Parce que l'État finira toujours, d'une façon ou d'une autre, violente, si possible, même si nécessaire, à prendre l'argent dans les poches des citoyens. Mais ça c'est le. Mais quand ce banquier dit oui, mais au lieu de dire qu'elle pourra prendre de l'argent dans les poches, elle dit qu'elle prend de moins en moins d'impôts. Donc je ne serai jamais remboursé. Hein? Alors panique du banquier. Alors que fait le banquier privé dans ces cas-là? Hop, stop, on arrête. Il va voir le banquier central. Et il dit à la banque centrale, dites, cette dame-là, elle fait n'importe quoi, parce qu'elle est en train de me demander des milliards de livres, etc. Elle ne me paiera jamais ce qu'elle me doit. Moi, je vais avoir des difficultés financières. Ben, c'est bien joli d'avancer de l'argent. Mais si je sais que mon emprunteur, il ne me remboursera jamais, je vais, moi, à la faillite. Hop, le banquier central dit, ah, moi, je suis la dernière garantie en dernier ressort, j'arrive. Je vous rachète vos crédits douteux. C'est-à-dire que vous avez un emprunt, que vous avez prêté de l'argent à Madame Truss. Hein. En fait, je le prends à ma charge. Je vous donne, moi, l'argent que vous lui avez prêté. Et donc, votre dette disparaît, puisque c'est la mienne à partir d'aujourd'hui. Et moi, banquier central, comment je fais pour faire disparaître une dette? Ben, je fabrique des livres sterling. En veux-tu? En voilà. Bon. C'est tout simple. Hein. C'est tellement simple. Bon, mais Madame Truss s'est mise, alors en 15 jours d'exercice du pouvoir, elle en est réduite là, c'est-à-dire que les banquiers ont dit hop, on fout, hein, c'est pas possible, on sera jamais payé, on sait pas où elle va. Hein, et donc, Banque Centrale, au secours, la Banque Centrale dit ok, ça va, passez-moi vos dettes, je vais couvrir tout ça. Bon. C'est un peu inquiétant pour conduire la vie d'un pays, parce que le banquier central peut fabriquer de l'argent, veux-tu en voilà, c'est de l'argent qui n'a été gagné par rien, qui va créer de l'inflation supplémentaire, donc il y aura de l'argent qui circulera, mais comme il y aura de l'argent qui circulera et qu'il n'y aura que des gens, enfin beaucoup de gens qui seront pauvres, sauf ceux qui payeront plus d'impôts, les prix vont augmenter, ça c'est mathématique, hein, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup d'argent disponible, et il n'y a pas de pouvoir d'achat dans la majorité de la population, donc les prix flambe. Et comme ça, le pouvoir, enfin les livres sterling fabriqués par la banque vont disparaître comme ça dans une espèce d'inflation qui s'arrêtera peut-être pas tout de suite et qui pourra monter à des niveaux très très élevés. Bon. Voilà dans quoi est la Grande-Bretagne après le départ de M. Johnson et après l'arrivée à la place d'Elisabeth de Charles III, c'est-à-dire dans un état catastrophique. Mais je dis, c'en est au point où tous les observateurs se disent, mais c'est pas possible, mais d'où elle sort, comment elle gouverne, enfin, qui la conseille, il y a une vraie inquiétude. Alors, à Bruxelles, on se réjouit en disant « Ouf, ils sont partis, ça fait un souci de moins, tu vois. Oui, c'est ça, c'est Tchao Pantin, tu vois. Bon, ça va bien, hein, qui se débrouille. Mais enfin, quand même, tout ça peut avoir des conséquences politiques, sociales, différentes ordres. Et puis, l'amener, même dans ses rapports politiques avec ses voisins, à faire des actes un peu inconsidérés, au moment où elle va se sentir étranglée dans l'incapacité de mener quelque politique que ce soit. Donc laissons la Grande-Bretagne à son destin, qui n'est pas brillant d'entre les mains de cette madame. Un autre pays qui a de quoi s'inquiéter sur son avenir, c'est la Bulgarie. Alors je m'arrête un petit peu sur la Bulgarie, parce que la Bulgarie a tenu des élections législatives ce week-end, qui ont donné... Alors, je sais plus le chiffre, mais enfin, la Bulgarie n'arrête pas de changer de gouvernement et de faire des élections législatives, en gros, au moins une fois par an, depuis un certain nombre d'années, et n'arrive pas à se stabiliser. Alors pourquoi elle ne se stabilise pas? D'abord, c'est un petit pays, mais c'est dans les pays qui sont maintenant dans l'Union européenne, elle y est depuis 2014, vous le savez, le plus pauvre parmi les plus pauvres. Et donc, rien n'y marche vraiment. Beaucoup d'habitants de la Bulgarie ont tendance à dire « si on peut aller ailleurs, ça sera tant mieux, profitons de l'espace Schengen, parce que chez nous, on ne voit pas trop où on va ». Bon, donc on en était ce week-end à une nouvelle élection législative qui a donné un résultat, alors, qui est un peu décevant, c'est-à-dire qu'à force d'user l'électeur à le solliciter une fois l'an pour remplacer le Parlement, l'électeur finit par se fatiguer, d'autant plus qu'il ne voit pas beaucoup d'effets dans les changements d'équipe gouvernementale. Mais, alors on en arrive à des taux de participation aux élections de 35-36%, c'est très très faible, donc il y a deux tiers des électeurs qui restent à la maison, qui n'attendent plus rien de la classe politique et du Parlement et du gouvernement, et donc voilà, qui survivent comme ils peuvent dans des circonstances matérielles difficiles. Mais ça a quand même eu du sens. C'est-à-dire qu'a repris la majorité une équipe qui était au pouvoir le coup d'avant, alors je ne rentre pas dans les détails, hein, qui est dirigée par un monsieur Borisov. Et ce monsieur Borisov a cette particularité. Alors il est considéré comme corrompu, mais à la limite, ça allait dire c'est monnaie courante, il n'y a pas de grosse surprise dans cette affirmation-là. Et il a pris la place d'un monsieur Petkov. Alors la différence principale, ce n'est pas tellement la gestion de la politique bulgare, c'est le rapport à l'Union européenne et le rapport à la Russie. Et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. Parce qu'en fait, la différence entre monsieur Petkov et monsieur Borisov, c'est que monsieur Borisov refuse absolument de critiquer la Russie, alors que monsieur Petkov est tout à fait dans la ligne de Bruxelles et de madame von der Leyen, etc. Bon, donc on a, c'est intéressant à noter, donc le peu d'électeurs bulgares qui s'est prononcé plutôt en faveur de la Russie dans le conflit actuel et contre la politique de l'Union européenne. Alors, c'est pas très surprenant vu l'histoire de la Bulgarie. Il faut savoir que la Bulgarie a été, dans ce qu'on appelait les pays du bloc de l'Est, un des plus fidèles à la Russie de très très longue date. Et donc on retrouve ça, c'est un pays slave, à la différence de son voisin roumain qui n'est pas un pays slave, qui a gardé des relations étroites et qui dans la guerre d'Ukraine comprend très très bien la position des Russes. Donc c'est le seul élément intéressant, ça ne va pas changer du tout la vie quotidienne des Bulgares, hein, mais ça a été un camouflet pour la politique de Bruxelles, et au point que la Bulgarie a refusé de condamner l'annexion des provinces, donc des provinces de l'Est de l'Ukraine par la Russie. Voilà, ça fait partie des données. Alors, c'est pas le seul cas, c'est un cas intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le cas tchèque, qui est pas tout à fait analogue, c'est-à-dire la population tchèque commence à manifester en disant c'est bien joli les sanctions contre la Russie, l'histoire de gaz, les robinets fermés, etc. Mais il y a l'inflation, tout ça va coûter très cher, on est malheureux et donc il faut arrêter cette politique, ne va nulle part. Donc c'est un autre endroit où ça pose question. Je ne parle pas de la Hongrie, où effectivement là les choses sont plutôt claires, puisque la Hongrie a dit qu'elle ne sanctionnait pas la Russie. Donc on a, dans cette zone-là de l'Union européenne, une série d'incertitudes, disons, je ne vais pas jusqu'à des craquements profonds, d'un certain nombre de pays qui se disent « où va-t-on dans cette politique de l'Union européenne ?» qui, dont la caractéristique principale, c'est que c'est désormais une politique générale vis-à-vis du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est dirigée par Madame von der Leyen, présidente de la Commission, qui n'a aucune fonction dans le gouvernement allemand, mais qui en fait tire la charrette pour la totalité de l'Union européenne, dans le sens il faut faire la peau à la Russie, en gros je fais simple, mais c'est ça l'idée. Hein. Et il y a un certain nombre de pays qui disent c'est bien joli, mais ça va nous coûter très cher. Alors cette question de ça va nous coûter très cher agite aussi une bonne partie de la classe capitaliste allemande qui dit « c'est bien joli, mais faire tourner les usines sans énergie, on ne sait pas trop faire, et donc il y a un moment donné où ça va nous poser problème hein. ». Mais pour l'instant, Mme von der Leyen continue, elle est boostée par Washington, l'OTAN, etc. Et pour l'instant, personne ne l'arrête. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'effectivement, quand le grand patronat allemand se met à dire « il faudrait quand même qu'on soit un peu plus sérieux, un peu plus raisonnable sur nos activités, sur nos achats d'énergie, de gaz, etc. Il y a un moment où ça peut basculer. On n'en est pas là, mais il y a des signes intéressants. Ce qui m'amène, bien entendu, à parler de l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, ça a été une semaine tout à fait importante, hein, puisque dans la semaine qui s'est écoulée, donc, il y a eu donc, l'achèvement des référendums dans les quatre régions ukrainiennes concernées. Ça, vous êtes au courant, je ne rentre pas dans les détails. Donc, les deux républiques séparatistes plus les deux provinces qui se sont ajoutées, celle de Kherson et celle de Zaporoïe, qui ont toutes très largement voté dans le calme en faveur du rattachement à la Russie. C'est-à-dire que ce qu'elles ont fait, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit bien clair, c'est-à-dire qu'elles ont dit, ben, nous on est russophones, on considère qu'on est russes depuis très très longtemps, depuis des siècles, et donc on a une proposition de la Russie de nous accueillir, on l'accepte, et on l'accepte pourquoi ? Alors c'est là qu'il faut insister bêtement avec ses gros sabots, c'est-à-dire que non, on l'accepte parce que depuis 2014, notre gouvernement passe son temps à nous tirer dessus. C'est ça. Hein. On s'est pas fâché tout de suite, mais on a commencé à recevoir des obus, des coups de mortier. Mais donc, le gouvernement nous veut du mal. Nous veut du mal. Et donc, maintenant, on a quelqu'un qui nous accueille, qui est un frère de langue, de tout ce qu'on veut, de culture. Et on va chez lui. Alors, c'est assez cocasse parce qu'il y a de ça quelques jours, M. Zelensky, et il avait dit plusieurs fois avant, mais il avait dit à ces gens-là, mais si vous voulez aller en Russie, allez-y. Il l'avait dit d'ailleurs l'année dernière. Alors, effectivement, c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils sont allés en Russie, mais ils ont porté la terre collée à leurs sabots. Alors, ça, il n'avait pas tout à fait prévu. Hein, mais ils se sont dit, après tout, nous, on part. Hein, vous nous avez voulu du mal, vous nous avez fait du mal, vous avez tué du monde, vous avez l'intention de continuer. Alors, il a tellement l'intention de continuer que maintenant, il dit, et il l'a dit alors la semaine dernière, maintenant ces 5 millions d'Ukrainiens qui ne le sont plus, qui nous ont trahis, ils méritent la mort. C'est-à-dire, il appelle à un pogrom de masse de 5 millions de personnes. Ce qui est... Alors, après, on dit c'est un démocrate, Zelensky et tout. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Un monsieur, chef d'État, qui appelle à l'assassinat de 5 millions de ses concitoyens, c'est un fasciste. C'est rien d'autre. Hein. Bon, ne tournons pas autour du pot. Hein. Il l'a dit. Il l'a dit, et je vous avais déjà mentionné le fait que des diplomates ukrainiens de son obédience avaient tenu des propos semblables et tout. Bon, voilà. Donc, il est totalement disqualifié comme démocrate. Bon. Mais la surprise étant que nos gouvernements occidentaux font comme s'ils n'entendaient pas ce genre de propos. Et donc renverse ma position en disant c'est les autres qui sont tous fautifs.
Alors, oui, pourtant il existe des vidéos où on les entend dire ce genre de choses.
Il le dit, il l'affirme et tout. Il a été mis en place pour ça. On s'attendait, il n'y a pas de surprise, on s'attendait à ce qu'il le dise. Mais il assume totalement un propos qui est de type hitlérien, c'est-à-dire c'est pas contre les Juifs, c'est contre les Russes de l'est de son pays, mais c'est tout. Le résultat est absolument le même. C'est un discours de haine, un discours d'appel au meurtre de masse, en fonction non pas d'une opinion, mais du fait que vous êtes russophone, vous êtes pro-russe, vous devez mourir. Hein. Moi, je n'arrête pas de m'interroger sur l'incapacité ou cette espèce d'obstination des diplomates et des gouvernements occidentaux à faire comme s'ils n'entendaient pas ce genre de discours. Parce que, alors, on peut à la fois dire tout le mal qu'on veut, et à juste titre, de l'hitlérisme, des camps de la mort, etc., et laisser un monsieur vivant dire la même chose, faire la même chose, et ne pas voir que c'est exactement le même discours. Et donc il y a une espèce de chiasme, hein, d'une incompréhension entre les deux camps. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, qu'on laisse pas... Alors ce monsieur, on l'a mis en place, c'est clair. On voulait qu'il fasse des ennuis à la Russie. Bon, il lui en fait, c'est manifeste, il est payé pour ça. Mais il tient quand même un discours qui, quand on le rapporte à nos critères de démocratie, de respect des opinions, est tout à fait insupportable. Alors quand on voit qu'en plus on accroche des drapeaux ukrainiens ici et là, dans toutes nos communes, sur des tas d'institutions sociales et tout, on se dit, mais à quoi joue-t-on, hein, parce que derrière, moi je dis, j'affirme, derrière chaque drapeau ukrainien, il y a potentiellement une croix gammée. Souvenons-nous, Alors, que nous ayons eu des parents juifs ou pas des parents juifs, mais souvenons-nous de ce que ça a été. Souvenons-nous de la rafle du Veldiv, souvenons-nous d'Auschwitz. Et alors, je suis assez stupéfait, une espèce d'incapacité à rassembler les deux en disant on peut nous faire des tas de choses sur Auschwitz, sur le camp d'Émile, etc., nous parler de la souffrance et de l'horreur de l'Holocauste, et puis laisser un monsieur tenir des propos absolument analogues dans une autre situation historique par rapport à une autre population. On se demande... Quel est l'état de santé politique des gens qui laissent passer ça ? C'est-à-dire incohérence totale, au nom de qui ? Alors, après, on dit, à qui ça profite ? Alors, à qui ça profite ? Alors, à qui ça profite ? Ben, on commence à voir un peu plus clair. À qui ça profite ? Vous allez voir, il s'est passé deux choses importantes, vous le savez. Mais la première sur laquelle on a moins insisté, c'est le fait que désormais, dans la bonne ville de Wiesbaden, c'est au sud-ouest de l'Allemagne fédérale, il est installé un quartier général de commandement des affaires militaires en Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est plus M. Zelensky et son équipe à Kiev qui gouvernent les opérations militaires sur le territoire ukrainien, c'est un général américain qui est installé à Wiesbaden et qui commande les forces de l'OTAN. Donc, désormais, la situation est parfaitement claire. Hein. On a affaire non pas à un affrontement entre le gouvernement de Kiev ou ce qu'il en reste et le gouvernement russe. On a affaire à un affrontement entre l'OTAN, avec un quartier général installé en Allemagne, un affrontement de l'OTAN avec la Russie. C'est parfaitement clair désormais, avec tous les moyens qui sont derrière, c'est-à-dire que je vais vous donner un chiffre qui va vous faire réfléchir. Le budget militaire de l'Ukraine depuis le début de l'année se monte à environ 90 milliards de dollars. Comparez ça au budget militaire de la France, c'est deux fois le budget militaire de la France. Bon. Et en plus, c'est un budget sans fonds, puisqu'en fait, ce n'est même pas des recettes fiscales, c'est des dons qui permettent d'alimenter ce budget-là, qui est un des plus gros budgets. C'est plus que le budget de l'Allemagne, c'est plus que le budget militaire de la Russie. C'est considérable. Donc en fait, il y a une quantité de fonds extraordinaire qui n'arrête pas, qui est destinée à donner à ce général américain qui est à Wiesbaden les moyens de continuer la guerre aussi longtemps que nécessaire. C'est que les choses soient bien bien claires. Et donc, ne rêvons pas. Et c'est uniquement si ce militaire reçoit les ordres de dire « il faut arrêter maintenant, il faut négocier » que ça s'arrêtera. Ce n'est pas autrement. Hein. Alors, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'appels à la négociation, puisqu'il y a une espèce de refus de la réalité, c'est-à-dire le fait que les quatre provinces ukrainiennes soient devenues russes, est nié. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le savoir. Il y a 5 millions de personnes qui ont décidé de devenir russes et qui ont été accueillies en Russie. Tous les actes ont été faits. Il y a eu donc le vote du Parlement, il y a eu la consultation de la Cour suprême, il y a eu la signature des accords. Enfin, les quatre pays sont venus signer un accord pour demander leur adhésion. Ils l'ont eu, c'est fait depuis hier, ça y est. Donc tout est fait dans les formes. Il n'y a pas eu une goutte de sang versé. Ça s'est fait... D'après tout ce qu'on a vu, dans le bout de satisfaction des gens qui sont arrivés là dans ce nouveau dispositif, parce qu'ils pensent que c'est une façon de sortir des souffrances qu'ils ont endurées depuis 2014, comment leur reprocher ? Simplement, il faut savoir qu'il y a un autre camp qui considère que lui ne veut pas de cette situation-là. Et donc qui est en guerre contre la Russie en tant que telle. Alors la Russie, elle a parfaitement compris, je vais venir là-dessus, elle a tellement compris que le 30, donc c'était samedi, Vladimir Poutine, au moment où il signait donc les accords avec les quatre nouvelles provinces qui demandaient à rentrer dans la Fédération russe, a fait un très très long discours sur lequel je vais m'arrêter parce qu'il mérite d'être expliqué, parce que c'est une histoire des relations de la Russie avec le reste du monde actuel. Et c'est en même temps son histoire à lui. C'est-à-dire que dans ce long discours qu'il a fait, Poutine a expliqué ce qu'il avait vécu et pourquoi il en était arrivé là de ses réflexions et de ses actes, vu la vie qu'il a menée. Et je m'arrête là-dessus parce que c'est très intéressant, parce qu'on en a fait un personnage caricatural, une petite moustache à la Hitler et tout. Bon, ça c'est inintéressant. C'est inintéressant, c'est de la bande dessinée, c'est un cartoon. Bon, mais voilà. Non, nous arrêtons. Alors, reprenons. Ce monsieur donc est un enfant d'une famille soviétique de la région de Leningrad qui fait des études de droit à l'université à Leningrad, qui fait des brillantes études. Hein, il est bon en droit, c'est un bon étudiant. Et il va s'embaucher où il peut, c'est-à-dire qu'il va être embauché par les services secrets, le fameux KGB. Alors là, tout de suite, on a les cheveux qui se dressent sur la tête, il est nu, embauché au KGB, donc c'est un monsieur qui a le parapluie bulgare, qui peut tuer des gens avec du poison, c'est un assassin en potent. Bon. En fait, c'est pas ça. Hein. Il faut savoir que dans les services secrets, que ce soit des services secrets français, états-uniens, russes, etc., il y a aussi des gens qu'on appelle des analystes qui font un travail d'observation, d'espionnage, appelons ça comme ça et tout. C'est pas des gens qui tuent des gens au coin des rues. Donc il est là et il est en poste. Son premier poste qu'il occupe, c'est en RDA, donc en République démocratique allemande. Il est en poste à Dresde. Et là, il fait son boulot d'espion, enfin d'agent. Il n'espionne pas l'Allemagne de l'Est, puisque l'Allemagne de l'Est est amicale, mais il espionne, il regarde ce qui se passe de l'autre côté. Il parle allemand, il lit l'allemand, il n'y a pas de souci. Et donc, il fait son travail. C'est un fonctionnaire, hein, pas plus. Pas plus, un fonctionnaire de bon niveau. Et puis, il se passe donc un événement qui ne touche pas que lui, mais qui touche la totalité de la population soviétique, c'est-à-dire qu'un certain Gorbatchev et ses deux acolytes décident de dynamiter l'URSS. Donc ça ne marche pas, ils n'en sont pas contents, ça suffit. Ils le font dans des conditions un peu bizarres, puisqu'en fait, ils organisent un référendum de consultation des populations soviétiques de toutes les républiques. Donc on est au printemps 1991, la majorité demandant à ce que l'URSS continue, et malgré ce résultat du vote, ils s'assoient dessus et ils disent non, on se sépare, chacun chez soi, on n'en parle plus, donc on sépare l'Ukraine, le Bélarus, le Kazakhstan, chacun, et la Fédération de Russie se retrouve à la taille qu'elle est aujourd'hui, ou qu'elle était jusqu'à la semaine dernière, puisque là elle a un petit peu grossi, et ayant perdu en gros 5 millions de kilomètres carrés, passé de 22 à 17 millions de kilomètres carrés, qui permet quand même de rester le pays le plus vaste du monde, on le sait. Et voilà donc mon Poutine qui se trouve rapatrié à Moscou, hein, puisque son poste, il a perdu son poste en RDA, qu'il n'y a plus d'agents, plus de services secrets en RDA, que la RDA a été absorbée par la République fédérale. Donc il retrouve un boulot. Alors c'est là qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais il se retrouve dans les équipes nouvelles de Boris Eltsine. Alors il y est, et dès le début, et en fait il y est comme un petit employé, un petit espion, appelons ça comme on veut, et il va sortir, alors il va vivre, et il l'a dit dans son discours de samedi dernier, il a dit « j'ai vécu là, comme la totalité des citoyens russes, j'ai vécu là la décennie la plus épouvantable de l'histoire de mon pays ». À juste titre, c'est connu, c'est pas lui qui l'invente, hein. Baisse de la natalité, baisse du niveau de vie, baisse de l'âge moyen au décès, la Russie perd 10 années d'âge moyen au décès en 10 ans, c'est un effondrement, hein. On se tue au coin des rues, les oligarques volent les biens collectifs, etc. Hein. Alors, nous, on a vu ici, on a présenté que les oligarques, c'est-à-dire ceux qui se sont remplis les poches en pillant le bien public, hein, et qui se sont achetés des hôtels dans la belle banlieue de Londres, des super yachts gigantesques et tout, ça a été les profiteurs. Le reste des Russes est mort de faim. C'est ça qu'il faut voir. Mmh. Hein. Et ça, tous ceux qui travaillaient au Kremlin avec Eltsine le voyaient. Alors, il voyait aussi, et ça, il n'était pas le seul à le voir, que l'entourage d'Eltsine, c'était un entourage compliqué, mais où il y avait beaucoup de gens qui avaient des appétits féroces, qui voulaient absolument s'enrichir, jouir de tous les biens de la vie qu'ils n'avaient pas eu auparavant, qui étaient des espèces d'oligarques sur place, qui voulaient, voilà, flamber, on pourrait dire. Il voit ça de près. Jusqu'au moment où il doit se poser des questions. Alors, on ne sait pas, il n'a pas écrit de mémoire là-dessus, mais il explique, j'ai vu les souffrances du peuple russe, j'ai vu la décomposition de cette équipe, parce qu'il a pu croire peut-être que Eltsine, à un moment donné, était sincère, qu'il était patriote, qu'il voulait finalement arrêter la guerre froide, etc. Et puis, comme il le dit dans son discours du 30, il dit, il y a un moment où je me suis rendu compte, et il n'a pas dû être le seul, qu'en fait, les risettes que nous faisait l'Occident, car il faut savoir qu'à ce moment-là, ces 10 années de risettes, c'est-à-dire l'Occident, en particulier les États-Unis, tellement content d'avoir une Russie toute souriante, toute gentille, toute affable, prête à discuter, à se rencontrer, à se taper sur le ventre. Il y a des scènes extraordinaires où on voit Alcide, voilà, se tapant sur le ventre avec tous les dirigeants des États-Unis. Bon. Il se dit quand même, on est en train peut-être d'avoir des relations un peu trop étroites, mais est-ce que ça nous est bénéficiaire? C'est bien gentil, ils sont gentils avec nous, mais au fond, qu'est-ce qu'ils nous font? Et petit à petit, il va arriver à cette idée qu'il y a quand même un doute sur la sincérité de l'amitié américaine par rapport à la Russie. Il dit, ils sont contents qu'on soit calmés, qu'on ne se menace plus de bombes atomiques mutuelles et tout, mais au fond, on n'avance pas beaucoup. Alors, il en reste là jusqu'au moment où il arrive au pouvoir. Alors là, il y a un passage où, effectivement, Alcide lui-même se défausse, fatigué, abîmé par l'alcool, etc., on ne sait pas trop. Mais Alcide aurait pu confier le pouvoir, puisqu'en fait, il va le confier à Poutine, il aurait pu le confier le pouvoir. Et il le confie à quelqu'un qui n'est pas dans les oligarques, qui est conscient que le peuple russe est en souffrance, que la Russie est en train de s'effondrer, et qu'elle risque même de disparaître, et qui arrive là avec cette vision simple. Alors il n'est pas ni socialiste, ni membre du Parti communiste, il est là, il voit que son pays file, un mauvais coton, et risque la disparition. On en est là. On est en 2000. Bush arrive au pouvoir, donc Helsinki, Poutine vient d'être élu, donc il a été d'abord Premier ministre en 1999, puis il est élu président en 2000, c'est la surprise, et puis il sait, puisqu'il l'a dit et il l'a décrit, il sait très bien à la tête de quelle catastrophe il se trouve, c'est-à-dire un pays très affaibli, très abîmé, et avec un ami qui n'est peut-être pas un ami très très sûr. Hein. Bon. Il observe, il va regarder un petit peu Bush fonctionner, puisque Bush prend le pouvoir à peu près au même moment que lui, arrive au pouvoir. Il va le regarder même